C'est fini? Je me tais et on continue? Non. On va rouvrir, si vous voulez bien, 2 Corinthiens. Ça va être utile, je pense, pour nous tous. Vous allez aussi voir sur l'écran ce texte projeté. Mais comme nous avons déjà chanté cette prière, on va néanmoins prier ensemble pour que le Seigneur soit avec nous. Donc, je vous invite à la prière, chers amis. Nous avons chanté effectivement, Seigneur, que tu nous conduises dans tes sentiers. Et nous voulons te demander, Seigneur, donc d'incliner nos cœurs vers ce que toi tu nous dis. Donne-nous de comprendre, mais non seulement de comprendre, mais aussi de mettre ce que tu nous dis par ton esprit en action dans nos vies. Donne-nous des cœurs obéissants. Ouvre nos yeux pour contempler de merveilleuses choses dans ta loi, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y avait une annonce dans un petit magasin du coin qui disait ceci: perdu, perdu, un chien berger alsacien, plus vu depuis vendredi dernier. Une oreille déchirée, il ne marche qu'à 3 pattes, quatrième est cassé, et il n'a rien qu'un œil. Donc facile à retrouver. Son nom, c'est Lucky ou Lucky. Bah, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sang. Cette blague n'a pas marché non plus au premier culte. Mais Lucky signifie chanceux. Et c'est en contradiction qu'il s'appelle chanceux ou Lucky, comme Lucky Luke, tout en ayant une apparence où il a tellement pas de chance, ce pauvre chien. Et cela, hein, j'ai raconté, pour nous aider à entrer dans 2 Corinthiens. Pourquoi? Parce que il y a un problème à l'église de Corinthe. Paul, qui écrit donc cette lettre 2 Corinthiens, il est apôtre. Apôtre, c'est une haute responsabilité. C'est une charge privilégiée. Cela portait une autorité importante. Jésus, le Seigneur ressuscité, charge Paul, les 12 apôtres, aussi avec cette tâche magistrale d'être des témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourtant, l'apôtre Paul, comme Lucky alors, ne semblait pas, lorsqu'on rencontrait Paul, quelqu'un de très impressionnant. Au chapitre 1 de ce livre que nous avons déjà vu ensemble, il parlait, Paul, de ses difficultés, de ses tribulations, d'être au-delà de ses forces, de telle sorte qu'il désespérait même de conserver sa vie. Et du coup, certains disaient par rapport à lui: tu prétends être apôtre, toi, Paul, comme ça? Tu parles d'ailleurs beaucoup, Paul, dans tes lettres. Mais ce Paul que nous voyons quand tu nous rends visite, c'est loin d'être apôtre, personne impressionnante, importante. Et si vous voulez, en grande partie, cette lettre donc de 2 Corinthiens, c'est une réponse de la part de Paul à ces accusations-là. Cette lettre nous permet de nous équiper à comprendre ce qu'est un vrai ministère qui glorifie Dieu, ce qu'est un ministre de Jésus-Christ authentique. C'est important. Donc, nous comprenions ce que Paul voulait dire. Parce que je pense qu'il reste beaucoup de confusion encore dans nos jours par rapport à ce qui représente un ministère chrétien authentique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez comme ministère authentique dans cette église ou autour de vous, dans votre vie chrétienne? J'assistais, moi, à une réunion d'église récemment pour célébrer un événement important dans la vie de cette église. J'étais invité, comme d'autres, pour célébrer cela avec eux. Et dans ce contexte particulier de célébration, c'était en fait attendu que Dieu fasse quelque chose de spécial. C'était un événement spécial. Alors, lorsqu'ils se réunissent pour cet événement spécial, que faut-il? Il faut que Dieu agisse de manière spéciale. Et effectivement, à la fin de l'exhortation qu'il y avait de la part de la personne invitée pour l'exhortation, il y avait une prophétie, une nouvelle parole de Dieu proférée dans toute sincérité à cette église. Nous étions informés par cet orateur que le pasteur de cette église allait être un nouveau David pour la ville de Bruxelles. J'avoue qu'en entendant cela, ça m'a refroidi. Mais j'étais en minorité, parce que pour d'autres dans cette église, pour entendre une telle chose, c'était reçu, ce qui est compréhensible dans un sens, avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de réjouissance. David, de nos jours, ici à Bruxelles, c'est la preuve que Dieu est particulièrement avec nous, qu'il promet une telle chose magnifique pour nous à ce moment-ci. Vous imaginez d'avoir un ministre comme David dans cette église-ci, qui sait vaincre des Goliaths de votre vie? Qui aimerait pas cela dans cette église? Et pourtant, vous devez persister avec un Britannique qui vient d'un pays, qui vient de sortir de l'Union européenne, et vous vous dites, lui, c'est pas un Goliath, c'est pas un David. Il faut quelque chose de merveilleux. Donc, lorsqu'on dit de telles choses, nous pensons que Dieu, tout d'un coup, a un plan très spécifique pour moi. C'est assez flatteur, en fait, pour des chrétiens, de chercher de telles choses impressionnantes. Parce que si la personne qui donnait l'exhortation avait dit, non, la tâche de ce ministre, de cette église alors, c'est de prêcher Christ crucifié, et cela avec de la peine, de la sueur, cela n'aurait pas semblé aussi extraordinaire que cela pour cet événement spectaculaire, spécial. Et pourtant, c'est ça la tâche de l'Église de Jésus-Christ. Quel est le fait de vouloir quelque chose de particulier pour moi, c'est de miner notre confiance dans le message glorieux de Jésus-Christ crucifié en donnant l'impression qu'il faut quelque chose de plus, de plus passionnant, ce qui n'est pas le cas. Notre ministère, c'est de prêcher Christ crucifié, d'être persuadé que rien d'autre que ce message-là peut être, doit être la fondation de notre assurance, que Christ est, par son esprit, présent avec nous, parmi nous, qu'il nous accompagnera jusqu'à son retour. D'ailleurs, ça m'a frappé que tout au long de cette soirée, personne dans les 2 heures où on y était, il y avait plusieurs intervenants pendant cette soirée, parlait qu'une seule fois du message de Jésus-Christ crucifié que nous avons à proclamer. Donc comment savoir réellement si Dieu est avec nous, à l'œuvre parmi nous? Parce que parfois les bonnes intentions que nous pouvons avoir nous poussent à chercher dans les mauvais endroits. Et Paul continue dans les versets que nous avons lus à raisonner pour que les Corinthiens comprennent ce que c'est un ministre de Christ authentique. Et donc, nous allons voir 3 choses aujourd'hui. Vous allez les voir sur le dos de votre feuillet, si vous avez ça sous les yeux. Et la première chose à remarquer, c'est la peine de Paul, sa peine. Un ministre de Christ se soucie pour la foi des autres. Verset 11, que disait-il Paul, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et suis parti pour la Macédoine. Alors juste pour un instant, si tu permets, Samuel, on va revenir vers les cartes qui vont nous démontrer où se trouve Troas. Donc voici la première carte. Ici, c'est... Est-ce que je l'ai mis sur On? Maintenant, je l'ai mis sur On. Donc ici, c'est la Turquie actuelle. Ça, c'est la Grèce actuelle, Athènes ici. Donc, ça, c'est le monde d'aujourd'hui, Jérusalem, ici. On passe à la carte suivante. Et maintenant, c'est le même monde, mais maintenant à l'époque de l'apôtre Paul. Et nous voyons ici l'église de Corinthe. Nous voyons toujours Jérusalem n'a pas bougé, c'est ici. Et nous voyons ici Troas. C'est la ville où Paul était. Pour quelle raison, dit-il? Alors, on va juste faire un saut de nouveau vers le verset 12. Il était à Troas. Pourquoi? Pour l'évangile de Christ. Il dit ici que le Seigneur avait ouvert une porte pour lui de proclamer la bonne nouvelle. Il semble que c'était une terre fertile pour la proclamation de la bonne nouvelle. Probablement, Paul y allait parce que la porte s'est ouverte. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y reste. Ça portait du fruit. Des personnes devenaient chrétiens. Mais il attendait l'arrivée de Tite. Alors, on revient juste vers la carte de seconde. Voilà. Il attendait l'arrivée de Tite. Et Tite était envoyé par Paul à Corinthe. Ils étaient probablement tous les deux ici à Éphèse. Tite est parti en bateau vers Corinthe. Paul est monté ici à Troas. Et il attendait que Tite fasse le voyage comme ça jusqu'à Troas. Mais quand Paul n'a pas de nouvelles de Tite, que fait-il? Il quitte Troas et il va à la recherche de Tite. Pas de GSM à ce moment-là, donc je ne sais pas comment il a pu le trouver. Mais ça, c'est un autre débat. Bon, on peut revenir vers le texte si tu veux, Samuel. Merci. Donc, il attendait Tite, qui devait arriver de Corinthe, parce qu'il avait envoyé Tite à Corinthe pour prendre des nouvelles des Corinthiens, suite à cette lettre difficile qu'il a dû leur écrire. On avait parlé de cette lettre la fois dernière où il fallait reprocher des Corinthiens pour un manque de discipline au sein de l'Église. Mais comme Tite ne revient pas vers Paul à Troas, Paul dit que son esprit était troublé de ne pas avoir eu de nouvelles à propos des Corinthiens. Comment vont-ils dans leur foi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont bien reçu cette lettre que je leur ai écrite? Est-ce qu'ils se sont repentis? Ou est-ce qu'il continue dans une mauvaise voie? Et donc, malgré la porte ouverte pour l'évangile à Troas, malgré le fruit de ce ministère impressionnant, malgré l'importance de cette mission de sauver ceux qui sont dans les ténèbres, Paul abrège son séjour à Troas. Il a pris congé d'eux, il dit, et il est parti pour la Macédoine. Peut-être vous savez dans votre expérience ce que c'est d'envoyer un mail ou un SMS ou un WhatsApp à quelqu'un de proche dans lequel vous avez dû soulever des choses difficiles. Peut-être une reproche à cette personne par rapport à quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été dit. Avant de recevoir leur réponse, c'est difficile d'être à l'aise, n'est-ce pas, si vous connaissez cela. D'abord, si ce n'est pas WhatsApp, vous essayez de voir si les petits trucs bleus s'affichent. Est-ce qu'ils l'ont lu? Alors, maintenant, ils l'ont lu, mais ils n'ont rien dit. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quand est-ce qu'ils vont me répondre? On stresse par rapport à la bonne réception de certaines communications, n'est-ce pas? Paul reconnaissait ce stress, lui aussi, dans son ministère. Il cherchait, vous voyez, le bien spirituel de cette église à Corinthe. À un point où, oui, il est prêt à quitter un ministère qui va bien, qui est important, à Troas, afin d'être rassuré de la foi de ces personnes. Paul, un homme donc qui se fiche des autres, qui se cache derrière son ministère important à Troas pour ne pas se soucier des autres, non, loin de là, un ministre authentique se soucie pour le bien spirituel des autres. Cherche à comprendre que ceux auprès de qui il exerce le ministère vont bien dans leur foi, sont en train de marcher par la grâce de Dieu, dans les voies de Dieu, sont en train de suivre Christ, de mourir à soi. Paul n'est pas simplement donc un professionnel, chers amis, qui sait faire des choses externes d'un ministère chrétien, mais qui en dessous, une fois qu'il est chez lui, après avoir parlé en public, n'a pas le moindre souci pour des brebis, car maintenant il est devant la télé en train de regarder la prochaine série Netflix. Alors évidemment, ce message s'applique d'abord à moi, à Benjamin, à Samuel en tant que responsable dans cette église. Mais ça s'applique bien sûr à nous tous en tant que ministres, serviteurs de Christ. D'abord, suis-je présent le dimanche matin afin de cocher simplement la case dite « Église ». Okay, peut-être maman ou papa disent que je dois y être dans un premier temps. Alors, est-ce que j'y suis? Bon, c'est bon. J'ai coché. Maintenant, je peux maintenant continuer à faire autre chose. Je peux me débarrasser maintenant de cette partie religieuse de ma vie pour aller chercher ce qui me plaît. Mais de suis-je là? Non pas parce que mes parents me l'obligent, mais parce que mon conjoint pense que c'est une bonne chose. Ok, coché. À quelle heure est-ce qu'on mange? Ok. Et si je suis là, non pas parce que mon conjoint l'impose, mais parce que je sais que c'est une bonne chose à faire, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui fait preuve de se soucier de la foi de mes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que j'envoie parfois un WhatsApp, un SMS? Est-ce que je prie régulièrement pour l'un ou l'autre de ces personnes, l'une ou l'autre de ces personnes? Est-ce que je cherche à parler, non pas simplement à ceux qui sont comme moi lorsque j'assiste à une réunion d'église, mais de chercher ceux aussi qui ont besoin d'encouragement dans la foi? Que fais-je, moi, pour me soucier de la foi des autres? Ça, c'était la peine de Paul dans son ministère. Il est un ministre de Christ qui se soucie de la foi des autres. C'est notre premier point. Le deuxième point, chers amis, c'est pas sa peine, mais maintenant, c'est son odeur. Un ministre de Christ ne cherche pas l'approbation de tous. Alors, qu'est-ce que nous signifions par cela? Qu'est-ce que j'ai mis ce matin comme déodorant? Est-ce que c'est la bonne odeur, oui ou non? Parce que savez-vous que, point de vue odeur, pour certains, une odeur que vous aimez, d'autres trouvent cette odeur écœurante. C'est possible, cela. Je me souviens d'une ancienne publicité britannique pour une bière que j'avais appréciée. Il y a une femme qui cherche à faire plaisir à son mari avant de sortir. Et au lieu de mettre son parfum habituel, elle prend de la mousse de la bière dans son verre sans qu'il s'en aperçoive et l'applique sur sa nuque. Lui, il sent cette odeur lorsqu'il s'approche d'elle pour lui prendre le bras et il s'exclame tout content: « Oh chérie, qu'est-ce que tu sens bon ce soir ?» Donc ce que une personne trouve écœurant, une autre personne trouve bon. C'est bon ou c'est mauvais? Il peut y avoir deux réactions différentes. Paul parle ainsi de son ministère chez les Corinthiens. D'abord, il parle, verset 14, de l'odeur de la connaissance de Dieu qui se répand grâce au message que Paul et les apôtres proclament. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En fait, ici, il faut savoir que le mot que nous avons ici pour nous fait triompher est parfois traduit « il nous traîne dans son cortège triomphal ». Et cela fait référence à ce que les Romains faisaient après une victoire. Ils défilaient en ville à Rome une fois qu'ils étaient de retour chez eux. Et afin de démontrer leur victoire, ils obligeaient un certain nombre des captifs, des ennemis vaincus, de rejoindre derrière dans le défilé pour que leur humiliation soit comprise par tous. Et je pense lorsque Paul dit que Dieu nous traîne dans son cortège triomphal, il joue avec cette image. Parce qu'il se considère, d'après 2 Corinthiens, captif, lui, dans un tel cortège. Car il fasse allusion à ses souffrances dans le ministère. Au lieu d'en avoir honte, comme c'était le cas pour les captifs romains, au lieu d'avoir honte, ses souffrances en tant qu'apôtre contribuent au triomphe de Christ. Car c'est à travers ses efforts, sa peine, que l'odeur de la connaissance de Dieu se répand. Car ensuite, c'est les messagers qui eux-mêmes deviennent une odeur. Vous voyez ça, verset 15. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Paul se sert ici du langage de l'Ancien Testament, des sacrifices, son ministère, un ministère là où il est appelé à souffrir, où il est tout près de la mort, il nous a dit au chapitre 1, a une odeur pour Dieu lui-même. Nous sommes pour Dieu, comme le parfum du Christ. Cela est agréable à Dieu, car le message apostolique se répand dans le monde. Mais comment ce message répandu est-il reçu? Au verset 16, nous apprenons que le même message, voyez-vous, a deux réactions opposées. Verset 16, pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Proclamer l'évangile de Christ, il n'y a que deux réponses. Deux réponses. Soit une réponse négative. Ça sent la mort. Vous avez, une fois dans votre vie, senti ce que c'est la mort, un cadavre? Ce n'est pas agréable, les amis. C'est écœurant, comme on dit. Mais aujourd'hui, on dirait de ceux qui proclament l'évangile de Christ, si on le rejette, que disons-nous? Oh, c'est dépassé ce message-là, vous savez. Ou c'est même négatif, on parle du péché dans ce message-là. Ou même c'est offensif. Oh, vous n'êtes pas intolérant, ceux qui proclament de telles choses. Résumé, ça pue, ce message-là, pour certains. Mais lorsqu'il dit cela, il rejette le Sauveur, Jésus-Christ. Lui seul peut les sauver d'un jugement pur et parfait qui viendra, tombera sur nous tous, tout être humain. Peu importe notre statut dans ce monde. Le rejet de Jésus-Christ nous mène à la mort finale, le jugement final, la condamnation éternelle, loin de Dieu, sous sa colère, pour toujours. C'est une réaction à la proclamation de ce message. L'autre réaction, c'est que ça mène à la vie, cette odeur. Ils entendront ces personnes parler de Jésus-Christ, mort sur une croix, pour prendre la punition sur lui qui devait tomber sur eux. Et là, ils verront donc le pardon que Dieu nous offre en Christ. Ils verront l'espoir que nous avons de la paix avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu, la joie de connaître ce Dieu serviteur qui se donne pour nous. Et eux, ils diront, oui, ça, j'y crois. J'espère que ça, c'est votre cas ce matin, chers amis. Une odeur qui donne de la vie, qui conduit à la vie éternelle pour toujours auprès de Dieu. Et si vous voulez, ces deux réponses donc sont les conséquences du ministère d'un ministre chrétien. Il y a des conséquences éternelles par rapport à ce ministère. Comment les uns et les autres qui passent dans cette église dimanche après dimanche, ou des uns et des autres qui ont contact avec des gens de cette église en semaine, lundi jusqu'à samedi, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce que nous annonçons? La réponse à cette question-là détermine le destin éternel. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours de ce nouveau virus, n'est-ce pas? Coronavirus, qui, je pense, a tué à peu près 750 personnes dans le monde jusque-là. À juste titre, je pense que nous sommes soucieux, même si ici en Belgique, il semble qu'il n'y ait pas encore eu des cas, mais peut-être je me trompe, peut-être aujourd'hui, ils ont dit qu'il y en a eu. Mais évidemment, nous voulons trouver un vaccin, c'est une bonne chose. Être scientifique et chercheur dans ce domaine-là, hein, cela porte une responsabilité pour sauver des vies. Est-ce que vous savez le total de décès en Europe par an, tout confondu? 5,2 millions de personnes meurent par an en Europe. 57,2 millions de personnes meurent par an dans le monde. Et seul le message de Jésus-Christ peut les sauver. Il n'y a aucun autre travail sur Terre qui porte des conséquences aussi lourdes, aussi importantes que le ministre de Jésus-Christ, ce qui exerce le ministère de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comprendre cela, chers amis, c'est de comprendre que le cœur d'un ministère authentique n'est pas question de gagner le plus grand nombre d'adhérents par un ministère le plus impressionnant possible. Non, procéder ainsi, c'est de penser que le salut de ces personnes dépend de notre méthode, notre personnalité, notre talent à nous. Ce n'est pas le cas. C'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. À la fois dégoûtant pour certains, rejeté, mais à la fois attirant pour d'autres, qui est capable de les sauver. C'est toujours ainsi. Ne pensons pas que si on améliore notre méthode, on aura tout le monde qui va en croire. Non, il va y avoir toujours distinction, une odeur qui donne la mort, une odeur qui donne la vie. Notre rôle, ce n'est pas de chercher l'approbation donc de tout le monde par rapport à ce que nous disons, mais d'annoncer avec fidélité ce message. Et verset 16, que dit Paul? Qui est donc à la hauteur d'une telle tâche? Sous-entendu, personne. Personne. Mais la responsabilité d'un ministre de Jésus-Christ, d'un ministère authentique, c'est de transmettre de manière transparente ce message-là. Verset 17, il dit que nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. Non, c'est avec sincérité de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Dit Paul, nous prêchons Christ, c'est en Christ que nous parlons. Les enjeux sont tout simplement trop grands, trop important pour chercher à chipoter ici, à manipuler, à ne pas représenter clairement ce qu'est le message de Christ. Et donc, j'aimerais vous demander, nous demander ensemble, cherchons-nous à faire cela dans notre ministère, en tant qu'Église, mais en tant qu'individu autour de nous. Évitons-nous parfois ce qui est difficile pour ne pas repousser des potentiels adeptes, il ne faut jamais parler de ça, sinon les gens vont partir. Les gens vont partir, les amis. C'est comme ça le ministère chrétien. Essayons-nous d'impressionner les autres de la présence visible et tangible de l'Esprit de Dieu dans nos activités à un point où nous négligeons de mettre de manière transparente le message de Christ devant les uns et les autres. Quel terrible abandon des responsabilités chrétiennes si nous faisons cela. Alors, son odeur, c'était cette deuxième chose. Un ministre de Christ ne cherche pas l'approbation de tous. Les enjeux sont tout simplement trop grands pour faire cela. Dernièrement, sa lettre de recommandation. Un ministre de Christ cherche l'approbation qui vient de l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Voyons ce qu'il dit à partir du verset 1 du chapitre 3. Recommençons-nous à nous recommander à nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous? Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est quasi impossible d'être embauché pour un travail sans avoir un bon CV. C'est normal qu'ils mentionnent au moins l'une ou l'autre personne qui sont prêtes à vous recommander dans votre travail. Une lettre d'introduction, au jour de Paul, lorsqu'il écrivait ceci, fonctionnait plus ou moins de la même façon. Et il paraît qu'à Corinthe, d'autres soi-disant apôtres portaient sur eux de telles lettres. Et du coup, les Corinthiens demandaient une lettre. Et même plus, ces personnes demandaient aux Corinthiens de pourvoir de telles lettres pour de telles personnes, pour la prochaine étape de leur itinéraire en tant que prédicateur. Il dit à la fin du verset 1, non seulement pour vous, mais aussi de vous, que ces Corinthiens devaient leur donner une lettre de référence. Ce n'est pas comme si de telles lettres n'ont pas de place, les amis. C'est juste, encore aujourd'hui pour une église, de se renseigner du passé d'un pasteur potentiel qu'ils veulent engager, de comprendre comment il avait exercé le ministère ailleurs, qu'est-ce que c'est la qualité de sa vie de famille, etc. Ce sont des choses importantes à savoir avant d'engager quelqu'un. Mais ici, la demande est déplacée, car c'est Paul lui-même qui avait implanté cette église. Cette église est venue à l'existence à Corinthe, grâce au ministère de Paul. Ils connaissent donc déjà l'apôtre Paul. Il dit, verset 2, « Vous êtes donc notre lettre, écrite dans nos cœurs, d'abord, il dit l'apôtre Paul. » Paul et ses compagnons qui ont apporté cet évangile n'ont pas fait cela car c'était simplement leur boulot, leur profession, je suis prédicateur, donc je dois le faire. Non, ils l'ont fait parce que cela a été leur joie, c'était écrit dans leur cœur, leur privilège, leur amour pour Dieu et pour les autres de prêcher ainsi. Cette lettre, il continue, est connue et lue de tous les hommes, c'est-à-dire que cette église de Corinthe a eu un impact plus loin que simplement à Corinthe, en toute la Macédoine. Et plus loin encore, on a entendu parler de ces Corinthiens et des changements qui ont eu lieu chez eux. Qu'est-ce qui était connu, verset 3? Que cette lettre est une lettre de Christ. L'Église venait à l'existence grâce au Seigneur Jésus lui-même. Écrite, il continue, par notre ministère, car si l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre, cela a été communiqué à travers le message de Christ apporté par Paul, l'apôtre. Donc, loin d'être faible et peu utile, Paul, en tant qu'apôtre de Christ, est responsable pour cette lettre qui est des Corinthiens. Et cette lettre, l'Église à Corinthe, est écrite, il continue, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. L'encre n'est pas un objet animé, c'est plutôt inanimé. L'Esprit de Dieu est vivant, nous dit ce texte. Et son œuvre, continue Paul toujours au verset 3, est écrite non pas sur des tablettes de pierre qui ne se limitent pas à ce qui est donc externe, mais est écrite sur des tablettes de chair, sur le cœur, les cœurs des Corinthiens. Quelle est donc la preuve que réclame Paul pour l'authenticité de son travail? C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans les cœurs de ces Corinthiens, dans la vie de ces Corinthiens. Ce n'est pas que ces Corinthiens sont parfaits à tous égards, ça c'est clair si nous lisons ces lettres de 1 et 2 Corinthiens. Non, ils ne sont pas parfaits. Mais oui, cet évangile prêché par Paul a eu des changements réels. Ils sont devenus chrétiens. Ils ont un intérêt, une soif de suivre Jésus, le Maître, de glorifier Christ, de lui obéir, d'aimer Dieu, de servir son peuple, d'aimer son prochain comme soi-même. Cela, ils voient dans l'Église à Corinthe. et c'est la gloire du ministère, verset 6, de la nouvelle alliance. C'est un ministère qui transforme le cœur. Tandis que le ministère de l'ancienne alliance, écrit sur des tablettes en pierre, les 10 commandements, la loi de Moïse, n'arrivait pas pour finir à faire cette transformation de cœur. Paul dit donc qu'il n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. L'Église à Corinthe, c'est sa lettre, il leur dit. Verset 4, telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Est-ce donc qu'il se vante de son travail? Non. Verset 5, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Tel est le privilège pour le ministre de la nouvelle alliance. Notre capacité vient de Dieu. Verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Cela, hein, on abordera en beaucoup plus de détails la semaine prochaine, dans 15 jours, lorsqu'on revient à 2 Corinthiens. C'est la suite du chapitre 3. Ce qui compte, du coup, pour nous, en conclusion, ce n'est pas l'étiquette que nous mettons sur notre ministère. Parfois, il faut une étiquette, mais en dessous, tout compte de ce que nous faisons avec cette étiquette. Donc, si je porte l'étiquette pasteur, d'autres présidents, d'autres diacres, d'autres membres de l'église de Woolway, d'autres sympathisants de cette église, d'autres membres d'une famille de longue date, et dans ma place et dans cette église, quoi que ce soit d'étiquette que nous aimons réclamer, ce qui compte, ce n'est pas la capacité de parler aisément en public, ni de chercher des signes puissants de la manifestation de l'esprit, ni d'exercer beaucoup d'autorité par la force de notre propre personnalité. Non, ce qui compte, c'est de voir Dieu à l'œuvre, par sa grâce, à travers le ministère de l'Esprit de Dieu lors de la proclamation du message de Jésus-Christ. Ce message-là transforme les cœurs. Sommes-nous engagés dans un ministère qui transforme les cœurs? C'est ça, un ministère authentique. C'est ça, un ministre authentique. Alors, j'aimerais vous encourager cette semaine, cette année, d'être encore engagé dans un tel ministère, de ne pas être aveuglé par d'autres ministères qui s'offrent à nous dans le milieu chrétien, mais d'être ceux qui sont contents de pouvoir proclamer le message de Jésus-Christ, et donc d'être attachés à cela, de vouloir encourager cela. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur, parfois ce parfum de Christ, c'est une odeur de mort. Nous sommes conscients de cela. Ça donne la mort. Mais pour d'autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Nous voulons donc exercer notre responsabilité en tant que ministre de Jésus-Christ, de continuer à proclamer ce message-là, conscient qu'il peut y avoir ces deux réactions. De ne pas être ceux donc qui falsifient la parole de Dieu, mais qui avec sincérité transmet le message de Christ crucifié aux uns et aux autres. Te prions que nous sommes ceux qui se soucient de la foi des autres. Et nous prions, Seigneur, que nous sommes à la recherche du fruit de l'Esprit dans la vie des uns et des autres. Merci Seigneur que ton Esprit œuvre dans les cœurs pour nous transformer, pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Et nous te demandons Seigneur donc de continuer à être à l'œuvre parmi nous dans cette Église pour ta gloire, que nous puissions être ceux et celles qui prêchent Jésus-Christ crucifié. Sois avec nous par ta grâce, nous te prions. Amen.